À rencontre spirituelle, aujourd'hui, en cette fête de Notre-Dame des Douleurs, il serait question de la prière. On se demande toujours pourquoi demander à Dieu quelque chose. Si c'est tout, pourquoi lui demander? D'autant plus qu'on a beau lui demander, on n'obtient pas toujours ce qu'on veut, et rarement même. Dieu sage, il nous accorde souvent bien autre chose, de bien plus grande valeur, à nos demandes, si on apprend, petit à petit, à lui demander autre chose, à aller de l'avant. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, plutôt que de se poser la question « Pourquoi demander à Dieu quelque chose s'il sait tout ?», on pourrait peut-être se mettre à pratiquer l'oraison. Qu'est-ce que ça veut dire, l'oraison, hein? C'est une pratique de prière qui est, à mon avis, indispensable. Si on veut transformer notre cœur, si on veut être heureux avec Dieu, si on veut apprendre vraiment à trouver, comme Marie, le bonheur. Je parle du bonheur de Notre-Dame, de Marie, le jour de Notre-Dame des Douleurs. C'est que elle était beaucoup plus heureuse que douloureuse. Car elle gardait tout ça dans son cœur et elle savait des choses que nous ne savons pas. Mais nous pouvons en apprendre une partie par l'oraison. Saint Augustin qui dit, je fais une émission demain sur Saint Augustin. Saint Augustin disait, que fais-tu mendiant à la porte d'un Dieu si riche? Que fais-tu à la porte d'un Dieu si riche? On se dépouille. On apprend à se dépouiller, puis c'est lui qui prend toute la place, autant que possible. Quand on interroge d'ailleurs les gens sur leur vie de prière, ils répondent habituellement que ça leur arrive assez souvent de lancer vers Dieu un cri de détresse, « Seigneur, Seigneur, au secours !» Ils lancent parfois, ou même souvent, un chant de reconnaissance, hein, « Mon Dieu, merci, merci, mon Dieu, merci, merci !» Et parfois même, un beau cantique de louange. Bon, faire ça à la campagne, devant un beau coucher de soleil, hein. Ça surgit de leur âme, c'est spontané, et ils se mettent à murmurer, « mon Dieu, que c'est beau hein. !» On entend ça souvent, « Mon Dieu, que c'est beau, que c'est beau !» Et par contre, la plupart des chrétiens avouent qu'ils s'arrêtent pas tellement souvent pour prier longtemps. Dans le cœur à cœur d'une prière silencieuse, c'est ça l'oraison. Une prière que la tradition chrétienne appelle donc « oraison ». Oraison. C'est un peu triste pour beaucoup de gens comme ça. Parce qu'ils voudraient bien faire oraison, mais ils disent qu'ils n'en ont pas le temps d'abord. D'autres ont commencé, mais ils n'ont pas persévéré. On peut lire comme ça le livre de l'abbé Pierre Guilbert, « La prière retrouvée ». C'est un prêtre, ça, qui a essayé de pratiquer l'oraison, il a eu de la misère, puis il l'a retrouvé. Et là, quand il l'a retrouvé, il est devenu un bien meilleur curé de Saint-Thomas d'Aquin à Paris, dans le 6e arrondissement. Alors, ceux qui persévèrent pas, bien, ils ratent quelque chose, hein. Il y a un manque de méthode aussi, ou de courage. Il y en a d'autres, enfin, les plus nombreux, j'ai bien l'impression, ils sont pas tellement persuadés que cette façon de prier soit nécessaire à leur vie parce qu'ils sont distraits, qu'on est facilement distrait pendant l'oraison. On pense à toutes sortes d'autres choses. Mais c'est pas bien grave, ça, de penser à d'autres choses. Le bon Dieu s'occupe de nous pendant ce temps-là. C'est le chanoine Caparel qui disait, quand on pratique l'oraison, bien, on se met en présence de Dieu, puis on dit, Seigneur, je me mets en ta présence, j'ai bien de la difficulté, toi, tu es toujours présent à moi, mais moi, je suis si peu présent à toi. Alors, je me mets en présence devant toi, je prends conscience de ta présence, là. Alors, c'est un peu comme un pilote qui met son, ce qu'on appelle justement son pilote automatique dans l'avion, là, qui traverse l'océan. Et puis, son pilote automatique conduit l'avion, puis il peut se lever de temps en temps, puis dire bonjour aux gens, saluer les gens, surtout en première classe. On dit, l'avion va-t-il se rendre s'il conduit pas son avion? Mais il y a le pilote automatique. Ça, c'est notre pilote automatique de se mettre en présence de Dieu puis de lui dire qu'on veut être en présence. Mais on est distrait, on s'en va saluer dans notre imagination des gens. On nous pense à des rendez-vous qu'on a, des commissions à faire, etc. Mais le pilote nous dirige au but et Dieu est là qui veille. et qui est content. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont découvert la nécessité de s'arrêter souvent, périodiquement, pour se décontracter. Ils ont expérimenté le bienfait là, d'une vraie détente en fin de semaine ou durant leurs vacances. Ils savent que pour éviter l'infarctus ou la dépression nerveuse, mais c'est indispensable d'échapper de temps en temps à toutes les agressions de la vie moderne. Et aussi, on les voit se livrer le dimanche matin à leur sport favori, à fond de la course à pied. Ils partent à bicyclette. Mais ils sont pas tellement persuadés maintenant que leur âme a tout autant besoin, et même bien plus, de ce que j'appellerais un bain de jouvence chaque semaine. Le pape vient de publier une belle encyclique sur cette question. Ah, vous devriez acheter ça, c'est une petite brochure jaune qui coûte presque rien, publiée chez Teki. Faut se replonger souvent dans l'océan divin, comme on dit, l'océan divin. Quand ces gens-là entendent parler d'aller à la messe le dimanche, ils pensent immédiatement que tout ça, c'est pas pour eux. Que tout ça, c'est réservé à des tempéraments un peu mystiques ou à des vieilles personnes qui sont pas capables de se dégager de ces obligations inutiles. Ils sont même pas loin de penser que c'est le signe d'un certain déséquilibre affectif, que c'est le fait de gens qui sont déçus par la vie. En tout cas, c'est pas pour eux. Eux, ils sont des hommes d'action, des femmes qui ont autre chose à faire le dimanche matin ou le samedi soir. Pourtant, la pratique de l'oraison, de la prière, c'est un ordre clair du Christ, un conseil, disons, un conseil très, très clair. On trouve ça dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, au début. Toi pour prier, oui, toi pour prier, retire-toi dans ta chambre. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est ça la pratique de l'oraison. Quelqu'un qui pratique l'oraison court ensuite le dimanche pour aller à la messe et même tous les jours. Il a soif. Soif de l'Eucharistie, de s'unir au Christ dans cette grande offrande au Père. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Qu'est-ce qui va nous rendre? Cette participation à la communauté chrétienne. Cette insertion dans le monde pour y être des chrétiens debout. Et le fait est là, hein, Jésus nous demande de prier. On barre, si possible, la porte de notre chambre. On fait le silence. C'est pas toujours facile dans les appartements trop restreints d'aujourd'hui, ou avec des voisins qui font du bruit. Et tous les saints nous ont dit la place irremplaçable de la prière personnelle et prolongée. C'était Saint Thérèse d'Avila qui disait « Tous les biens me sont venus par l'oraison. » Cette prière secrète et silencieuse est d'autant plus nécessaire que nous avons tant de choses à faire. Nous avons trop de choses à faire, il faut vraiment arrêter. Et pour parvenir à prier au cœur même de nos occupations, comme saint Paul nous le demande dans la première épître aux Thessaloniciens, c'est indispensable de se retirer régulièrement dans un lieu silencieux pour un cœur à cœur véritable avec Dieu. Jésus lui-même le faisait, vous trouvez ça dans le premier chapitre de saint Marc, verset 35. Le disciple, d'ailleurs, le disciple, qui nous, on ne doit pas se considérer plus fort que Jésus, que notre maître. Si Jésus nous demande de nous retirer dans un lieu solitaire pour prier, c'est que cela est possible et c'est possible. Il faut prendre des moyens. Facile pour moi de parler, je vis seul. Mais j'avoue que quand j'avais mon fils, et heureusement, il n'écoutait pas la télévision trop fort. Il était très délicat là-dessus. Il y a bien des objections qui arrêtent les chrétiens sur le chemin de l'oraison. Mais les principales objections, c'est « je n'en ai pas envie ». Ou bien « j'en ai pas le temps ». Ou « j'ai essayé, mais c'est trop difficile ». Ou je ne sais pas comment faire le silence autour de moi. Prenons les gens qui disent qu'ils n'en ont pas envie ou qu'ils n'en ont pas le droit, surtout. Disons ceux qui disent qu'ils n'en ont pas le droit. Alors, devant l'immensité des misères à soulager, toutes les tâches à accomplir, on a toutes sortes, on fait du bénévolat en quantité énorme, de plus en plus, avec raison. Hein, beaucoup de chrétiens estiment que leur raison, c'est du temps volé aux autres. Et si je fais raison, ben, je pourrais pas aider les autres pendant tout ce temps-là, et c'est pas bien. Pourtant, à la rigueur, on peut prier, mais juste le temps nécessaire pour recharger les batteries de son moteur spirituel, dit-il, juste un peu. La prière devrait ressembler à des espèces de haltes ultra-rapides effectuées par Jacques Villeneuve, vous savez, quand il fait ses courses. Il fait des haltes rapides, c'est pas long. Hein? Dès que les réservoirs d'essence de sa belle voiture sont remplis puis les pneus changés, il repart à toute allure sur la piste, alors on dit, on va faire pareil. Est-ce que c'est ce que le Seigneur attend de nous? Il suffirait de consacrer le plus de temps possible au service de nos frères, disent-ils. Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Il se souvient de cette belle parole de Jésus dans Matthieu, chapitre 25. Hein, c'est tellement beau, ça. Jésus ne nous a-t-il pas enseigné que le second commandement était semblable au premier? Hein? Mais son prochain, comme on aime Dieu. Or, est-ce qu'il ne faut pas en conclure que la seule façon d'aimer Dieu, ce serait d'aimer son prochain? Et un point, c'est tout. C'est ce que disent ces gens actifs, empressés auprès des autres et souvent très admirables. Cette interprétation séduit beaucoup de gens. Elle semble donné par Saint Jean lui-même dans sa première épître, parce que quand on lit ce texte, on a l'impression que l'apôtre Jean résume toute la vie chrétienne en deux verbes, hein, croire à l'amour de Dieu pour nous et aimer nos frères comme Dieu les aime. Et est-ce qu'il ne faut pas en conclure, là, que avec cette nouvelle alliance qui nous est donnée dans le Nouveau Testament, avec Jésus et les apôtres, Dieu ne demande plus aux hommes de l'aimer, de passer du temps à prier, mais uniquement de croire à son amour et de consacrer tout son cœur et toutes ses forces à aimer nos frères, en somme tout son temps. Est-ce que ce serait ça? C'est la pensée de Luther. Hein? Nous ne sommes, aimait-il répéter, que de simples tuyaux entre la miséricorde de Dieu et la misère des hommes. Et le chrétien a pour mission essentielle de servir de canal entre les torrents de la miséricorde de Dieu. Il y a un monde qui meurt de soif, faute de les recevoir. C'est une interprétation qui est reprise par le fameux théologien luthérien contemporain André Nigren dans son ouvrage « Eros et Agapé », qui est paru chez Aubier il y a déjà plusieurs années. Oh mon Dieu, 50 ans. Dans le Nouveau Testament, c'est ce qu'il dit, lui. Le mot « amour », l'agapé, désigne presque toujours l'amour de l'homme pour ses frères. Un amour qui doit être à l'exemple de celui de Dieu pour nous, une charité désintéressée, là, qui se consacre totalement aux autres, qui s'adresse de préférence aux plus pauvres, aux plus démunis. Dieu ne nous demande donc pas de l'aimer lui, mais simplement de croire en son amour, puis d'avoir confiance en lui, puis d'aimer nos frères. Et la seule façon de l'aimer de façon authentique, c'est d'aimer les hommes. C'est la vie, ça, de Luther et de ce théologien luthérien. Et c'est souvent la vie de bien des catholiques, hein. Goûter... Vous voyez pourtant comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez, nous verrons ça tout à l'heure. C'est sûr que Jésus nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il a élevé ce deuxième commandement de l'Ancien Testament à la dignité, semblable au premier. Mais il n'a pas renversé la primauté du premier commandement qui dit, écoute Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Il n'a pas supprimé ce commandement. Nous sommes toujours appelés à trouver en Dieu notre joie essentielle. À apprécier plus que tout sa présence. À lui redire, devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Où est-ce que c'est qu'on trouve ce beau texte? C'est dans le psaume 16 que vous connaissez. Hein? Les beaux, les psaumes. Comme l'explique Saint Bernard, dans son commentaire du Cantique des Cantiques, Dieu ne nous a pas créés pour que nous jouions le simple rôle de canaux de tuyaux dans son église. Nous sommes de petits réservoirs, c'est-à-dire que nous avons le droit et le devoir de conserver, de goûter longuement les torrents d'eau vive que nous recevons du ciel. Il y a des torrents d'eau vive qui descendent là et qui rentrent dans notre réservoir. Et on y goûte, on en boit. Et c'est après ça qu'on peut laisser tout sortir sain, en adoptant des pauvres, en les aidant, en allant vers les combats pour la justice, en se débattant dans cette société pour faire que la justice règne. Saint Bernard ajoute, un canal ou un tuyau rend presque immédiatement ce qu'il reçoit. Et il dit, un réservoir, au contraire, attend d'être rempli pour communiquer sans dommage ce dont il surabonde. C'est écrit, c'est des siècles et des siècles, 900 ans. Dans l'Église d'aujourd'hui, nous ne manquons vraiment pas de canaux. Nous manquons de réservoirs. Il faudrait beaucoup plus de réservoirs dans le cœur des gens. Oui, toute la tradition de l'Église proclame que l'oraison n'est pas du temps volé aux autres, que nous avons le droit de nous asseoir aux pieds du Seigneur Jésus. Comme, vous savez, Marie, pas la Sainte Vierge, Marie, prenait le temps de le faire dans la salle de séjour de sa maison à Béthanie, tout près de Jérusalem, quand Jésus allait lui rendre visite. Il ne veut pas que nous l'aimions seulement de toutes nos forces aux heures de travail professionnelles ou de notre bénévolat, mais que nous l'aimions aussi et d'abord de tout notre cœur. Où ça? Dans l'intimité? Oui, dans l'intimité et la gratuité d'un rendez-vous d'amour. Où on peut avoir l'impression de perdre notre temps, je vous l'assure. Mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui perdent leur temps dans des salons de bronzage ou sous des lampes solaires chez eux pour avoir une apparence plus en santé, une apparence? Une perte de temps. Il y en a, c'est une nécessité, c'est leur profession, quoi, ils sont des vedettes ou je ne sais quoi. Mais nous, avec notre âme, nous devons aussi faire bronzer notre âme sous le soleil de Dieu. Ceux qui disent « je n'en ai pas envie », bien, on trouve pour la plupart d'entre nous plus de joie, plus de satisfaction dans l'accomplissement de notre travail que dans nos moments de prière. Nos moments de prière souvent nous ennuient. Alors, on se jette dans les activités de Marthe. C'est la sœur de Marie, vous vous souvenez, c'est dans leur maison de Béthanie, Marthe s'occupe, a dit à Jésus, « pourriez-vous demander à Marie de m'aider ?» Et Jésus dit, « non, non, elle a choisi la meilleure part. » Elle est assise et elle m'écoute. C'est un peu curieux comme réponse, hein? S'il y a bien raison, au fond. Et les activités de Marthe nous attirent souvent davantage que l'inactivité apparente de Marie au pied du Seigneur. Il y a des gens qui me disent qu'ils ont beaucoup de difficultés à s'asseoir pendant cette émission pour l'écouter comme il faut parce qu'ils sont trop occupés. Et d'autres me disent qu'ils sacrifient toutes leurs occupations pour les écouter, pour être avec Dieu et réfléchir sur ces grandes vérité que l'Église nous enseigne à travers les livres, les œuvres que j'utilise pour faire ces émissions. Aujourd'hui, c'est l'œuvre de l'abbé Pierre de Couvemont. C'est le guide des difficultés de la foi catholique que j'avais utilisé le 11 mars dernier, mais il y a eu une panne et beaucoup de gens n'ont pas pu entendre toute l'émission. C'est pour ça que je la répète aujourd'hui. Alors, il faut être lucide. Ce qui nous empêche, au fond, de faire oraison, c'est qu'on s'imagine que nos occupations sont archi-importantes. Nous sommes tous tentés, d'ailleurs, d'en faire le but de notre existence. Nos occupations, nos occupations, nos occupations, c'est le cœur de notre existence. Et une journée bien réussie, c'est ce qu'on pense, c'est une journée au cours de laquelle on a abattu beaucoup de besognes, une journée où nous avons fait avancer nos affaires, on arrive à la fin de la journée, on est complètement épuisé, et le temps consacré à la prière nous apparaît souvent comme du temps perdu. Puis la plupart d'entre nous, bon, on n'aime pas perdre notre temps. En tout cas, en priant, certainement pas. On le perd en regardant pour la troisième fois les mêmes nouvelles de la journée. Vous souvenez-vous de ce texte d'Isaïe? Chapitre 2. Le pays s'est rempli de faux dieux. Les gens se prosternent devant l'œuvre de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Et c'est là où la plupart d'entre nous, nous sommes rendus. Nous sommes rendus à adorer l'œuvre de nos mains, le travail, le succès, les affaires à faire, et Dieu ne nous reproche pas de faire beaucoup de choses dans une journée. Tel est souvent notre cas si nous avons la chance de ne pas être au chômage. Mais il nous demande de ne pas tomber dans ce qu'on appelle l'activisme, c'est-à-dire dans cette espèce de mentalité, à mon avis ridicule, qui consiste à évaluer une personne à ce qu'elle fait, au lieu de l'estimer, comme Dieu lui-même la juge, à la qualité de son amour. Il y a des gens qui s'émerveillent devant tout le travail que je fais. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a aucune importance que si je travaille jusqu'à 3 heures du matin. So what? Ce qui compte, ce qui pourrait compter, c'est la qualité de mon amour, si j'en ai. Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est ce qui ne se compte pas. C'est la ferveur et la pureté de nos actes d'amour. C'est pour ça que les actes d'amour de quelqu'un qui est paralysé au lit sont bien plus grands que les activités de 1000 personnes qui n'aimeraient pas. Nous pouvons obtenir un prix d'excellence en amour, alors même que nous n'obtenons ni médaille, ni même une petite mention dans notre vie professionnelle. Et le Seigneur ne nous demande pas de réussir aux yeux du monde, mais d'aimer. Il ne nous demande pas de souffrir non plus. Il nous demande d'aimer. Vivre dans l'amour, c'est ce que disait sœur Élisabeth de la Trinité, je vous prépare une émission sur elle bientôt. Vivre dans l'amour, m'éveiller dans l'amour et m'endormir dans l'amour. Les prophètes reprochent souvent à Israël d'idolâtrer l'œuvre de ses mains. On voit ça dans l'Histoire sainte. Et nous méritons ce reproche lorsque nous accordons plus d'importance à ce qu'on fait qu'à l'œuvre du Seigneur en nous, ce qu'il fait en nous. Or, c'est l'oraison qui est justement le moment où, au lieu de nous servir de nos mains pour agir, nous les joignons. On joint ses mains. Nous les immobilisons pour prendre le temps d'écouter Dieu nous redire sa tendresse et nous le laisser agir en nous. On peut aussi, si on est à genoux, déposer nos mains sur nos genoux, les mains ouvertes devant toi, Seigneur. Et au terme d'une demi-heure de raison, ce n'est pas notre travail qui a progressé, mais celui de Dieu. Nous lui avons donné la joie de nous pétrir longuement de ses mains, comme un boulanger. Laissez-le prendre son temps, comme on dit. Alors justement, il y en a qui disent « j'ai pas le temps ». C'est l'objection de beaucoup la plus courante. Et c'est vrai que dans une existence qui est souvent surchargée d'activités, la plupart des chrétiens vivent pendant des années avec cette erreur dans l'esprit, je ne peux vraiment pas soustraire un quart d'heure de mes journées pour m'entretenir seul à seul avec Dieu. J'ai pas le temps. Et voici qu'un jour, il découvre avec confusion que c'est bel et bien une erreur, hein? Dans une journée de 24 heures, pensez-y bien, il y a 96 quarts d'heure. Si j'en consacre un seul à la prière, il m'en reste quand même 95 quarts d'heure. Et je m'aperçois qu'en donnant approximativement à Dieu le centième de mes journées, il me le rend au centuple, tellement il est généreux. Ce sont toutes mes autres activités qui vont en bénéficier. Je réalise mon travail plus joyeusement, plus efficacement et même plus vite. Et chacun sait d'ailleurs qu'il finit toujours par trouver le temps d'accomplir les activités qu'il juge indispensables à son équilibre personnel ou familial, le sport, le bricolage, la télévision, puis la lecture, puis etc. Et le jour où l'on reçoit la grâce de comprendre que la prière est à la fois un droit et un devoir, on s'y met. Puis on s'attarde pas nécessairement à demander des choses à Dieu, autant que de vivre avec lui. Encore faut-il persévérer, hein? Et c'est peut-être là l'un des plus graves problèmes, puis il y en a d'autres qui disent, oh, j'ai essayé, c'est trop difficile. C'est pas facile de persévérer. Tout ce qui est magnifique suppose un long apprentissage, hein? Comme de violon. Et il faut accepter d'être un apprenti avant d'être maître, hein? En vérité, je vous le dis, Jésus, si vous ne vous convertissez pas pour redevenir comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, et pour faire face à cette réalité, difficile. Il faut d'une part ne pas faire fi des méthodes de prière. Il faut prendre des méthodes qui sont mises au point depuis des siècles par tous ceux qui se sont exercés, qui ont écrit des livres à ce sujet, sur cet art difficile de la rencontre avec Dieu. Il y en a de si beaux, je vous en ai signalé un tout à l'heure, la prière retrouvée de l'abbé Pierre Guilbert. Il y en a tellement. Seigneur, apprends-nous à prier de Don Louf. Et tellement d'autres. Vous choisissez celui que vous croyez être le meilleur pour vous. Allez dans une librairie et ouvrez les livres et regardez. Et choisissez. C'est ce qu'il faut faire. Évidemment que chacun doit découvrir peu à peu sa manière originale de prier. Comme les grands skieurs qui finissent par adopter un certain style pour descendre une piste, c'est comme ça. Et avant d'en arriver là, ils ont suivi une école de ski. C'est la même chose. Combien de laïcs ou de religieux reconnaissent à l'issue d'une espèce d'école de prière, là, avoir découvert en une semaine ce qu'ils avaient cherché en vain pendant des années? Il faut aller chercher. N'hésitez pas. Aujourd'hui, les questions de la prière, on se posait la question, pourquoi demander à Dieu des choses si c'est tout? Puis en plus de ça, un autre problème, c'est qu'on lui demande beaucoup de choses, puis on les obtient pas toujours. C'est qu'on peut aller plus loin, apprendre à prier d'une façon originale, qu'on appelle l'oraison. On pêche souvent par présomption lorsqu'on s'imagine, pour pratiquer l'oraison, que sous prétexte que le Saint-Esprit, c'est le grand maître de la prière, bien qu'on peut arriver à savoir prier de cette façon-là, sans aucune aide, en négligeant les conseils qui ont fait leur preuve dans le passé. Combien de laïcs ou de religieux reconnaissent, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'il faut aller dans une école de prière? On découvre ça en une semaine. Mais il reste vrai que la prière chrétienne ne sera jamais le simple résultat d'une technique de concentration, de méditation ou de relaxation. C'est pas ça. Quand on est chrétien, bien, le père spirituel, l'accompagnateur spirituel n'est pas un gourou, pas un gourou. On vient essentiellement demander à l'auteur d'un livre ou à un prêtre, ou parfois à une religieuse ou à un laïc très compétent, un peu comme, disons, Jean Vanier, des gens comme ça, leur demander l'art de se laisser conduire par l'Esprit-Saint. Lui seul, l'Esprit-Saint, en définitive, enseigne à chacun la façon dont il doit dire à Dieu ce qui est écrit dans l'Épître aux Romains, Abba. Que ça veut dire Abba? Vous savez tout ça, je pense, hein? Ça veut dire Papa. Papa. Avez-vous déjà dit ça à Dieu? C'est gênant un peu, hein? Jésus le faisait. Vous dites, Jésus le faisait, mais moi, oh, nous sommes si pleins de lui, il nous habite. Nous pouvons bien essayer. Et on le dit tout bas, Papa, à Dieu, notre Père. Et ça devient très doux. Essayez, vous verrez. Lui seul, le Saint-Esprit-Saint, peut nous donner un cœur d'enfant pour aller à Dieu avec la simplicité et la confiance qui conviennent. Mais si c'est pas possible, il est très sage de suivre les bons cours qu'on nous donne ici et là, ou de feuilleter 3 ou 4 bons livres et puis d'en adopter un, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a des gens qui disent, je ne sais pas faire silence. Faire silence. Mon esprit tourne toujours en rond et pense à toutes sortes d'affaires. Beaucoup se plaignent donc d'avoir l'esprit tout encombré de préoccupations. Lorsqu'ils essaient de se mettre en présence de Dieu, et malgré tous leurs efforts, ils n'arrivent pas à faire le vide, comme on dit, faire le vide. C'est tous les soucis de la vie quotidienne qui reviennent dans leur esprit, ça les empêche d'écouter Dieu. Ils ont l'impression de passer le plus clair de leur temps de raison à se battre contre ces distractions. Ils en sortent épuisés, découragés, convaincus d'avoir perdu leur temps. Convaincus d'avoir perdu leur temps. Je vous ai donné tout à l'heure l'idée du pilote automatique. On leur a dit qu'ils pouvaient intercéder en faveur de toutes les personnes auxquelles ils pensaient spontanément dans leur oraison, mais ils se rendent bien compte que les personnes comme ça, cette méthode-là, devrait être autre chose qu'une espèce de litanie d'intentions particulières. Je prie pour telle personne, puis telle personne, puis telle personne, puis telle personne, pendant, on peut faire ça pendant un quart d'heure. C'est ce genre de prière peut aussi bien se faire en pleine vie au milieu de toutes les autres activités. On lave la vaisselle et on offre et on prie pour des intentions qui nous ont été recommandées. Et si l'on consacre un quart d'heure de sa journée ou plus à causer avec Dieu, c'est pas seulement, semble-t-il, pour lui redire ce qu'on lui a déjà dit en lavant la vaisselle ou au cœur de n'importe quel travail ou des loisirs, au hasard des personnes rencontrées, un Seigneur, merci pour tant de générosité. Pitié pour ce collègue qui est en pleine détresse à Radio Ville-Marie ou ailleurs. Oh, pardon pour tant de méchancetés qui me sont adressées. Pardon, Seigneur, pour tant de méchancetés que j'ai faites moi-même. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Hein, c'est ce que Jésus dit. Hein. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alors, on ne dira jamais assez, prier à partir de la vie, à partir de ces rencontres fraternelles, des informations de la radio ou de la télévision, c'est excellent. On fait ça souvent dans les prières universelles à la messe, hein, et dans des soirées de prière. On fait ça souvent dans les meilleures soirées charismatiques où l'on prie avec de très belles intentions, qui surgissent du cœur des différentes personnes. Mais il est indispensable d'apprendre aux gens aussi à prier d'une autre manière, à partir de la Bible, à partir de la parole de Dieu. Parole de Dieu qui est sans cesse relue et méditée dans la Bible. Sinon, c'est toujours l'homme ou la femme qui parle au cours de la prière. Soit pour demander, comme je vous ai dit au tout début de l'émission, soit pour rendre grâce, soit pour implorer le pardon divin. Mais Dieu ne peut pas placer un seul mot pendant tout ce temps-là. Et il ne faut pas s'étonner qu'un homme ne persévère pas dans l'oraison s'il n'a pas pris l'habitude d'y écouter Dieu. Car il pressent que le message qu'il doit en recevoir est encore plus important que ses propres cris de détresse ou ses chants de louange. Pour écouter Dieu, parfois, mais on peut faire ça pendant des années, je le fais encore, je n'y arrive pas toujours, loin de là, à pratiquer l'oraison. Alors je me sers de l'Évangile du jour. J'espère que vous êtes abonné au Prions en Église, l'édition mensuelle. Ça coûte presque rien, vous recevez ça à la maison. C'est chez Novalis. Regardez bien à la fin des Prions en Église, hein, édition mensuelle, publiée par Novalis, et puis on vous donne le coût, l'abonnement d'un an au Québec, c'est rien. $15.93, donc $16. Et tout est inclus, les taxes sont incluses, tout. Et vous recevez ça chez vous un mois à l'avance, et là, chaque jour, vous avez l'Évangile du jour et vous pouvez le méditer et écouter la parole de Dieu. Or, la seule manière d'écouter la parole de Dieu, c'est de la lire là où Dieu l'a déposée une fois pour toutes à l'usage de ses enfants. C'est dans la Bible ou dans le Prions en Église. Et ce recueil de lettres d'amour qu'il a pris soin d'écrire lui-même pour que nous les relisions avec joie dans la suite des siècles. C'est ça le secret. Et le chrétien ne sait pas de faire d'abord le vide mental pour écouter ensuite Dieu lui parler. Il commence par lire la parole de Dieu. Il la relit. Il s'en imprègne. On se tanne pas de lire ça. Hein. C'est comme les gens qui disent, ben, je l'ai lu, je le sais. Ah non, on le sait jamais assez. Ça, c'est comme une sonate de Bach. Pour violoncelle seule. On l'écoute et on l'écoute et on l'écoute et on n'en finit plus. Ou si vous préférez une symphonie de Mozart, on n'en finit plus d'écouter. C'est toujours de plus en plus beau. Et à plus forte raison la parole de Dieu. Hein? Ah, c'est si beau. Les paroles de l'Évangile s'incrustent insensiblement dans notre mémoire. Ça finit par illuminer toute notre existence. Et les soucis sont toujours là, d'accord, mais ils sont comme enveloppés par la tendresse infinie de Dieu, qui est manifesté dans chaque page de la Bible. Et on voit par le fait même toute la distance qui sépare les techniques du vide mental enseignées ici ou là par toutes sortes de méditations transcendantales et la voie royale de la prière chrétienne. C'est tout autre chose. Là, le silence n'est pas un préalable indispensable, mais c'est bien plutôt la conséquence. La conséquence tout à fait logique d'une écoute se fait toute paisible de la parole de Dieu. Alors, on voit aussi l'importance de la lecture spirituelle, ce qu'on appelle la lectio divina. Je me souviens, quand je suis entré à Simonat du Lac, je me demandais ce que c'était au début. On parlait toujours de lectio divina parce que, depuis des siècles, les disciples de Saint-Benoît, les bénédictins, les cisterciens, les trappistes, tout ça, enseignent ça, la lectio divina, la lecture divine, comme on pourrait dire, pour la persévérance dans la raison. Vous savez, dans ses lettres aux fraternités, le fameux père Voyaume, disciple de Charles de Foucault, insiste beaucoup sur ce point. Dépourvu, dit-il, d'alimentation et d'exercice, un être vivant ne peut que dépérir parce qu'il n'assimile pas. Nous manquons de bon sens et de logique en nous laissant aller au découragement, à la vue de la faiblesse de notre vie de foi, sans prendre la décision de la nourrir, de l'exercer. Et le père Voyaume ajoute, alimenter sa foi. C'est découvrir en lisant ou en écoutant les enseignements de Dieu sur lui-même et sur sa vie parmi nous. Et cette science divine ne peut entrer en nous que par nos facultés de connaître, Et quelles sont les deux facultés de connaître? L'imagination, l'intelligence, intelliger, comprendre. On néglige trop souvent, dit le Père Voyaume, cet aspect de la foi. On veut trop simplifier et recevoir cette connaissance, je ne sais de quelle manière, au-delà des images et des idées, sans effort d'imagination et de réflexion pour connaître. Et c'est une erreur. Il dit bien sûr, il arrive que l'Esprit Saint nous instruise en secret, mais si nous devons nous préparer à cet enseignement direct de l'Esprit Saint et l'attendre en le désirant, nous n'avons cependant pas le droit de négliger d'alimenter notre foi par les moyens normaux, tant que cela sera nécessaire. Et cela le sera toujours à un certain degré, et en dehors des moments où Dieu y suppliera par lui-même. C'est le Père Voyaume qui parlait. Alors, il existe bien d'autres slogans par lesquels Satan, oui, Satan, il existe, essaie de nous détourner, nous chrétiens, de la pratique de la raison. Je vous en fais mention de quelques-unes. Tu es trop vieux pour t'y mettre. Ça, c'est des paroles de Satan. Quelle erreur, n'est jamais trop tard pour commencer à trouver dans ses rencontres régulières avec Dieu le secret d'un bonheur. Un bonheur inconnu jusque-là. Vous avez 70 ans, commencez. Pas trop tard. 80 ans, pas trop tard. Innombrables sont les témoignages de chrétiens qui avouent n'avoir découvert que sur le tard le chemin de la raison quotidienne. Pensez à Georges Vanier, dont je vous ai déjà parlé, j'ai déjà fait une émission sur lui, le père de Jean, et dont je vous ai parlé aussi. Georges Vanier décide de s'y mettre quelques années après que son épouse, je vous ai fait une émission aussi sur Madame Vanier. Mais c'est en découvrant dans sa bibliothèque que Georges Vanier a trouvé tout. Il a découvert dans sa bibliothèque un livre tout couvert de poussière qui traitait du sujet. Il était alors ambassadeur du Canada à Paris. Et à partir de ce moment-là, il se rend tous les jours dans une église de Paris pour être sûr de ne pas être dérangé durant cette demi-heure. Parce que quand on est ambassadeur, il ne faut pas rester en contact avec les téléphones, les messages et les gens. Il s'enferme dans une église derrière une colonne. Il garde cette habitude de l'oraison quotidienne lorsqu'il est nommé gouverneur général du Canada. C'est un exemple parmi d'autres qui nous rappelle que l'oraison n'est pas réservée à ceux qui ne sont pas écrasés de responsabilités. Et le démon nous dit aussi, tu n'as pas un tempérament fait pour la contemplation. Nous verrons ça tout à l'heure. Je vous ai dit que Satan nous assaille. Il y en a qui vont rire, mais ça n'empêche pas que c'est vrai. Il va nous dire, tu n'as pas un tempérament fait pour la contemplation. C'est une erreur. La contemplation, c'est pas réservé aux gens calmes, aux gens qui sont tout à fait flegmatiques. Il y a beaucoup de saints qui, comme le curé d'Ars, étaient particulièrement nerveux. Le démon peut dire aussi au fond de notre cœur, dans la prière, ou plutôt dans, il nous dit ça à notre oreille, parce que j'espère qu'il est en dehors, il est pas en dedans. Dans la prière, tu ne rencontreras que toi. Oh, c'est une déviation possible, la prière. C'est la gourmandise spirituelle qui fait ça. C'est très important de commencer son moment de raison en rectifiant son intention, comme je vous ai dit tout à l'heure. Seigneur, je ne viens pas chercher près de toi des consolations spirituelles, Faut dire ça. Faut lui dire, c'est toi que je cherche. C'est à toi que je veux plaire. Si tu m'accordes pendant cette demi-heure des élans d'amour qui me réjouissent, d'avance, je t'en remercie. Mais si je serais sec tout au long de cette oraison, je ne me désolerai pas, Seigneur, non, non. Rien ne peut me séparer de ton amour, pas même l'aridité spirituelle. Puis il y a un autre sophisme de Satan, les menteurs, or qui menteurs. Il dit, si l'oraison était une activité importante dans la vie chrétienne, bien beaucoup de chrétiens ne manqueraient pas de s'y livrer, or c'est pas le cas, ce n'est donc pas aussi important que le prétendent les messes spirituelles. C'est un raisonnement qui est un attrape-nigo, c'est un véritable attrape-nigo, hein. Satan aime ce genre d'attrape-nigo. Les deux premières propositions de ce raisonnement sont vraies, mais on en tire une conclusion absolument fausse. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens à faire régulièrement raison. La conclusion à en tirer, c'est simple. Ne soyons pas étonnés qu'il y ait si peu de chrétiens fervents et que toute l'Église s'en a un peu, comme on dit, à la déroute. Il me reste à indiquer brièvement ce qu'est l'oraison et ce que ça donne. Quand on la pratique chaque jour, il y a deux façons de justifier la prière, aussi valables l'une que l'autre. C'est la gratuité du rendez-vous d'amour avec Dieu. On s'y rend pour répondre à son invitation, pour la joie de le rencontrer. La joie qu'on lui procure d'abord. Oui, la joie qu'on lui procure, ça lui fait plaisir, vous savez. C'est un père qui a un cœur de mère, et quand il nous voit arriver, il est content. Puis la joie qu'on en retire soi-même. Même si cette joie n'est pas de l'ordre sensible, c'est autre chose, la joie chrétienne. Elle est au-dessus, elle est plus profonde que la joie sensible. Mais on peut aussi mettre en valeur le bénéfice qu'on retire de toute rencontre véritable avec son Créateur. Il y a la transformation aussi qui s'opère dans les profondeurs du cœur. Et sous son premier aspect, bien, la prière apparaît davantage comme un loisir. Un dialogue auquel on se livre pour le simple plaisir d'écouter Dieu puis lui parler. Bien, un deuxième aspect, c'est que la prière se présente comme l'activité grâce à laquelle on permet à Dieu d'agir avec puissance dans son âme pour la transformer. Alors, on peut dire que l'endroit où l'on médite, c'est comme un bloc opératoire. Le Seigneur devient le grand chirurgien. Puis il nous greffe un cœur nouveau. On a un cœur lourd, un cœur de pierre, puis il nous change notre cœur. Opération cardiaque. L'oraison, c'est rien d'autre, selon l'avis de Thérèse d'Avila, qu'un échange d'amitié où l'on s'entretient souvent et seul à seul avec celui dont nous savons qu'il nous aime. Ignace de Loyola disait, un ami qui parle à un ami et qui sait se taire pour l'écouter. La prière chrétienne, c'est essentiellement une conversation avec Dieu. On y retrouve donc nécessairement trois composantes de tout dialogue. Tantôt, j'écoute le Seigneur me redire personnellement aujourd'hui l'un des versets de la Bible. Tu as dû prier à mes yeux et moi, je t'aime. Zachée, descends vite. Il faut qu'aujourd'hui j'aille demeurer chez toi. Je suis venu, dit Jésus, chercher des adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. En somme, on n'a pas d'autre message à recevoir que son message biblique. Les inspirations de l'Esprit-Saint ne sont pas des messages personnels qui s'ajouteraient aux paroles de la Bible. L'Esprit-Saint fait retentir dans notre cœur la parole de celui qui l'envoie. Alors tantôt, je réponds au Seigneur, je lui parle, soit en reprenant les versets d'un psaume, ou d'un chant liturgique, ou d'un chant de Robert Lebel, soit en intervenant petit à petit, en inventant une prière spontanée. Hier, à la fin de la messe, à la soirée où je suis allé donner cette conférence sur le Saint-Suaire de Turin, le prêtre a prié seul, une prière spontanée sublime, le Père Paradis. On peut aussi réciter lentement une prière vocale déjà connue. Il m'arrive aussi de m'exhorter moi-même à la prière. Hein? « Ô mon âme, bénis le Seigneur, n'oublie aucun de ses bienfaits. » On trouve ça dans la Bible. Tantôt, il faut se tenir en silence près de lui. Alors notre prière devient un simple échange de regards. Hein? Vous connaissez ça, cette parole? « Je l'avise et il m'avise. » Ou un simple cœur à cœur. « Tu es là, Seigneur, et moi aussi. » Oui, je suis là, Seigneur. Et Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile. Tu es notre potier. Nous sommes tous l'œuvre de tes mains. C'est dans Isaïe. La prière, c'est aussi l'acte par lequel je m'offre à Dieu pour qu'il me transforme, qu'il me rende un peu plus semblable à ce qu'il veut faire de moi. Et il répond. Gardez les saints. L'union à Dieu, dit Carlo Caretto. C'est une impuissance que l'on se découvre et que l'on accepte, et la toute-puissance de Dieu à laquelle on se livre. Je sais qu'il n'est pas nécessaire de sentir cette action mystérieuse de Dieu dans les profondeurs de mon être pour qu'elle s'accomplisse. On ne sent rien, très souvent. En général, c'est seulement après un certain laps de temps, ça peut prendre des années qu'on prend conscience des fruits de l'oraison. Et l'un d'eux, les fruits de l'oraison, c'est pas le moindre, c'est la guérison de notre activisme. Cet esclavage sournois qui nous empêche d'aimer Dieu comme il le mérite, de tout notre cœur. À quoi sert la prière? Ne sert à rien. On entend ça tout le temps. Hein? Sert à rien, ça sert à rien. C'est le sommet des activités de loisirs auxquelles on s'adonne pour le plaisir. Mais comme c'est vrai, quand même, à condition d'ajouter qu'elle est également le sommet de nos devoirs de reconnaissance, car il est parfaitement normal de rendre grâce à Dieu de tout ce qu'il nous donne. Cela est juste et bon, on le dit à la messe. Et la prière est éminemment utile, disent d'autres, car si elle ne produit rien, elle permet à Dieu d'exercer en chacun de nous une activité fondamentale. Quoi? Notre salut, notre libération. Et on n'insistera jamais assez sur la gratuité de la prière. La prière fait que s'établit en nous une paix profonde, au plus intime de notre cœur. Oui, une paix profonde. Une paix dans les profondeurs de l'être compatible avec les déceptions inévitables de notre existence. Même si on souffre beaucoup, la paix s'installe. C'est ce que vivait Annette Desautels, dont je vous ai déjà parlé. Je lui ai consacré une émission. Elle était paralysée. Elle avait un sourire constant. La prière suscite une autre façon de travailler aussi. Au lieu d'aller gloutonnement sur mon travail, bien, on travaille mieux, plus efficacement. Et puis la prière, l'oraison, nous permet d'avoir un autre regard sur les autres. On est libéré de l'obsession du rendement. On se laisse beaucoup plus facilement déranger par nos frères au milieu des activités. Et c'est dans le fond de notre cœur que nous prenons l'habitude de les accueillir, de les écouter, de les aimer, de leur parler au téléphone au besoin. Et à force de s'ouvrir à Dieu, le cœur s'élargit. Ah, c'est sûr que parfois la fatigue domine, on risque l'impatience. Mais on montrerait sans peine que l'habitude de l'oraison donne également aux chrétiens une autre façon de réagir à ces épreuves, de se souvenir de ses échecs et de bâtir des projets, et d'envisager sa vie et sa mort, parce qu'on devient sûr d'être aimé de Dieu. C'est Mère Teresa de Calcutta qui disait, « Il n'est pas possible de s'engager dans l'apostolat direct, si on n'est pas une âme de prière. Soyons conscients d'être un avec le Christ, comme il était conscient d'être un avec son Père. Et Mère Teresa conclut en disant, notre activité n'est véritablement apostolique que dans la mesure où nous le laissons travailler en nous et à travers nous, avec sa puissance, son désir et son amour. Chère Mère Teresa, décédée il y a un an. Je vous avais fait une émission quelques jours après sa mort.